Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 21e, bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Laure Dandoc.
Bonjour.
Vous êtes co-gérante de l'abbaye de Fontfroide, un grand monument de la Narbonnaise, sur lequel bien sûr nous allons revenir dans une troisième partie, au présent, un petit peu au passé, puis, et puis avec un regard sur l'avenir, je pense que ça ne manquera pas. Notre sommaire, Michel, tu souhaites commencer par la grève des cheminots, avec un regard d'ailleurs un petit peu particulier,
oui.
Enfin, on va le voir. Après quoi, nous enchaînerons sur le crématorium de Narbonne qui est en gestation, mais qui pose un certain nombre de problèmes au niveau de l'agglomération, qui en a, l'agglo, le Grand Narbonne, qui en a la responsabilité. Dans une deuxième partie, nous reviendrons sur la ville de Narbonne avec le DOB. Alors ça, c'est du jargon technocratique. Ça veut dire le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire en gros la préparation du budget. Et puis nous enchaînerons sur un des épisodes peut-être de ce DOB, c'est-à-dire le devenir de l'église de la Major à Narbonne.
Mmh.
Une église dont je voudrais parier que peu de Narbonnais en connaissent l'existence.
Il faut dire qu'elle est très cachée. Quoi,
elle
hein,
est
pas...
particulièrement cachée à tous les sens du terme.
Oui.
Alors nous commençons par la grève des cheminots et le regard que tu y portes, Michel.
Oui, Jean-Claude, tous les jeudis matins, je quitte mon appartement du centre-ville pour direction les Halles de Narbonne, qui évidemment, qui ne sont pas très loin.
Attention, n'indique pas trop le trajet parce qu'on va te pister. Hein.
Ah, écoute, entre mon appartement et les Halles, il y a environ quoi, 200 mètres, hein, le cours Mirabeau, pour tout dire et pour ceux que ça intéresse. Et il faisait d'ailleurs un froid glacial, quoi, hein, ce jeudi-là. Et puis, il était tôt parce que j'avais un rendez-vous vers les 9h ou 9h30, donc il fallait que j'aille très vite. Et alors, j'y vais régulièrement, et surtout sur son parvis, parce que ce jour-là, il y a notamment un de mes brocanteurs habituels qui solde des bouquins et brocanteurs où j'ai trouvé des pépites littéraires. Donc, chaque fois, je regarde attentivement ce qu'il y a. Puis ce matin-là, rien. Donc, je rentre dans les Halles.
C'est ton bouquiniste alors qu'il te déçoit ce matin.
Oui, non, mais attends, c'est pas fini parce que je rentre dans les Halles, désertes, évidemment, il y avait personne. En fait, elles étaient elles aussi très froides. Et puis en ressortant, plus attentif peut-être, je découvre quand même, alors qu'il était pourtant bien apparent, le bouquin, un bouquin de Pierre Assouline, Sigmaringen. Alors, je ne vais pas dire ici à quoi, en fait, ce livre fait référence, comme c'est une période très particulière de notre histoire, notamment la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Mais bon, je ferme la parenthèse. J'envoie, en fait, les auditeurs à la lecture de ce Pierre Assouline-là. Et tout neuf, tout neuf. Alors, je le feuillette, hein, une page de garde, un ticket de caisse, d'ailleurs, la papeterie Prats, hein, de Lézignan, net à payer 21 euros.
Oula, hein, bon, que de détails. Bon,
merci de votre visite, et moi, je l'ai payé 5 euros. Alors, comme j'ai un solde de je sais combien, j'ai rien payé du tout.
Y compris la TVA.
Oui, et je lis les premières pages, pardon, les premières lignes du prologue. Deux points, ouvrez les guillemets. Écoutez bien. Un jour, nous avons recommencé à prendre des trains qui partent. La fidélité aux horaires n'est-elle pas le signe tangible de la renaissance d'un pays ? S'interroge Pierre Assouline.
Bon,
c'est pas fini.
C'est pas d'un philosophe, mais enfin presque.
Cela n'a l'air de rien, mais le retour à l'exactitude a une certaine portée morale.
Ah oui.
Point.
Oui, je peux dire que je partage modestement.
Oui. Mon Dieu, mais quel hasard. Parce que la veille, le mercredi soir, j'étais devant mon écran de télévision. Et je regarde la 3, Occitanie, Languedoc-Roussillon. Et puis je tombe sur un court reportage, si je puis dire, sur la préparation de la grève du lendemain, donc celle du jeudi. Et là est interviewé un responsable de la CGT de la région.
Occitanie.
Qui gravement s'interroge en disant « Je ne comprends pas, il n'y aura pas de TGV qui vont circuler dans ma région. »
Ça, c'est embêtant pour une grève de cheminots,
oui,
quand même.
Et il continue, parce qu'il n'était pas gréviste, la CGT nationale, ayant appelé à la manifestation, mais pas à la grève.
Ah, d'accord. Alors, ça s'explique.
C'est vraiment, il dit, mais c'est scandaleux, je soupçonne en fait la direction de l'avoir fait exprès, alors que je suis sûr qu'il aurait pu circuler pour nous éviter de monter à Paris afin de participer à la manifestation nationale. Alors là, je suis resté scotché sur mon fauteuil. Et je me suis dit, mais enfin quand même, voilà un garçon qui nous explique que ses camarades faisant grève et privant les usagers du train de pouvoir circuler librement et d'aller notamment à leur travail, et qui nous dit fait, tranquillement que c'est scandaleux que ça ne circule pas, c'est en question, parce que ça l'empêche à lui, qui ne paie pas le train, de monter à Paris pour participer à la manifestation. Alors je me suis dit, mais voyons voir, comment peut-on, raisonnablement, tenir ce genre de discours, sachant que la gratuité de son train à ce cheminot de la CGT, c'est celui qui s'en trouve privé de train, c'est-à-dire le client, qui la paie, qui la finance.
Bien entendu.
De sorte que je me suis amusé à mettre en relation ces petits événements que le hasard m'a permis de joindre plutôt en un seul billet, en faisant observer que l'exactitude des trains était effectivement d'une portée morale significative.
Et plus que morale. Et d'une grande efficacité économique aussi.
Et pour constater que, décidément, en tout cas pour certains cheminots de certains syndicats, on tenait des propos qui n'en avaient aucune.
Voilà. Morale. Et si tu permets, là, c'est pas si Maringen, c'est carrément Ubu Roi. Rappelons quand même, et comme on aurait dit peut-être à l'époque de Sigmaringen, Zabotage.
Sérieux.
Voilà. Sigmaringen, juste une petite parenthèse, rappelons-le, c'est un château en Allemagne.
Où ont été reçus par Hitler, les grands dignitaires français à la fin de la guerre.
Enfin,
Hitler, Laval.
Après le débarquement
américain. Et certains écrivains, voilà. Notamment Céline.
Bon. Alors, cette anecdote étant épuisée, passons à la suite avec un crématorium qui va se construire dans la Narbonnaise, qui n'en a toujours pas.
Oui.
Mais ça pose quelques petits problèmes de mise en place politique, politicienne peut-être.
Oui, coup de chaud donc. Coup de chaud en fait à l'aglo, c'était vendredi. Jacques Bascou devait présenter un rapport sur le principe de la création d'un crématorium. Et il l'a retiré au dernier moment, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis au vote. Et pourquoi ?
Parce qu'il allait être battu.
Parce qu'il allait être mis en minorité sur ce vote-là. En minorité, pourquoi ? Parce que Henri Martin, comme Didier Mouly, le groupe de Didier Martin, comme le groupe de Didier Mouly, n'ont pas voulu, s'ils sont d'accord sur le principe d'un crématorium, n'ont pas voulu que l'on vote sur un rapport, donc une délibération, qui impose un mode de gestion de ce crématorium, à savoir une régie communautaire, faisant observer que rien n'avait été étudié sur un mode de gestion différent, tout aussi public, à savoir la délégation de services publics. Alors pourquoi cela ? D'abord pour des raisons, effectivement, technique. Après tout, la délégation de services publics est un mode de gestion public.
Pourquoi pas, oui.
Sauf qu'il est confié par la puissance publique à un partenaire privé.
Donc ça, la grande question, est-ce que le privé est plus à même de gérer la chose ou pas, en fait ?
L'aglo, en fait, et son président le savent mieux que quiconque, puisque l'enlèvement des ordures ménagères...
Oui, ou les transports.
Sont gérés par des entreprises privées
sur une délégation de services publics.
Que Jacques Bascou a fait voter par sa majorité. Donc pourquoi la délégation de services publics des transports en fait, et des ordures ménagères serait moins publique que celle de la gestion d'un crématorium ?
Bonne question. Bonne
question,
si
n'est-ce pas ?
Dire,
ouais. Bon, il se trouve, pourquoi Jacques Bascou, semble-t-il, a voulu délibérer aussi sur cet aspect-là ? Et parce que le maire de Montredon, M. Meulet, sur le territoire duquel serait érigé ce crématorium, avait d'entrée de jeu dit... comme l'association d'ailleurs des crématistes de la région, que pour gérer ça, il fallait que ce soit directement l'aglo qui le fasse.
Oui. Rappelons que M. Mélé est aussi vice-président chargé des pompes funèbres.
Hein. Exactement. Voilà,
il faut le préciser.
Alors, c'est ce qui m'a d'ailleurs m'a mis à penser, mais voyons voir, est-ce que c'est comme si on demandait aux usagers de la SNCF, plutôt que les usagers de la SNCF, exige la SNCF la création d'une, je ne sais rien moi, d'une TGV entre Béziers et Perpignan, par exemple, quoi. Hein. Ce qui est absurde. Hein. C'est pas bon, une association d'utilisateurs futurs, hélas, d'un crématorium, d'imposer un mode de gestion, enfin, que je sache, quoi. Ouais, voilà. Mais quand même, dans cette affaire-là, symboliquement, ce qui est significatif, c'est que nous approchons des élections municipales.
Oui, voilà. Doute, en fait, bon, hein, ça veut dire des stratégies qui se mettent en place.
Eh ben, évidemment. Ça veut dire que sous des aspects comme ça, très symboliques, parce qu'il s'agit de, voilà, Bascou est présenté par la droite, en général, quoi, hein, comme celui qui voudrait imposer un mode de gestion administrative, dont lourd, pesant, en fait, etc. Et puis, bon, voilà. Et nous, qui souhaiterions un peu plus de souplesse. Donc, symboliquement, dans la gestion, en tout cas. Et donc, un partenariat avec le privé. Donc, symboliquement, voilà, l'opposition qui trouve là l'occasion, effectivement, de se démarquer politiquement sur des aspects de fond tenant à une certaine philosophie de la gestion publique, hein, de son président et de sa majorité étroite constituée par les radicaux et par les socialistes.
Voilà, qui peut être ténue. Et ce sur quoi on marque une première pause.